Bonjour à tous et à toutes. Au micro, David Chemla, qui a le plaisir de vous présenter le nouveau numéro de Chronique pour la paix. Aujourd'hui, nous sommes en ligne avec David Kalfa. David Kalfa, qui est un chercheur, co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès. David Kalfa a coordonné l'écriture d'un livre qui vient d'être publié par la Fondation sur la situation en Israël après le 7 octobre. Le sous-titre est « Le 7 octobre 2023, une onde de choc mondial, Israël-Palestine, année zéro ». Dans ce livre, il a interviewé une dizaine de personnalités, dont 4 Israéliens et 4 Palestiniens, qui apportent un éclairage sur la situation. Bonjour David.
Bonjour.
Bien. Alors, d'abord, merci d'avoir accepté d'être avec nous. Je voulais commencer d'abord sur le titre du livre que vous avez appelé « Israël-Palestine, année zéro », en faisant référence au film de Rossellini qui a été fait après la guerre, « Allemagne, année zéro », où, de souvenir, il décrivait la situation de l'Allemagne totalement détruite et qui devait se reconstruire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, c'est le cas au Moyen-Orient ?
Oui, je pense qu'en fait, ce conflit qui est séculaire a connu plusieurs phases. Depuis désormais 2014, il y a de facto plus de négociations entre Israéliens et Palestiniens en vue d'une solution diplomatique au conflit qui les oppose. Et donc, on a des phases de guerre interrompues par des trêves très courtes. Ce qui a changé, si vous voulez, avec l'attaque du 7 octobre, c'est à la fois la nature de cette attaque. Il s'agit d'une invasion terrestre du territoire israélien dans ses frontières internationalement reconnues. Et puis, c'est aussi ses modalités, avec une brutalité absolument inouïe, avec un grand nombre de civils massacrés. Et puis la guerre qui en a découlé, depuis désormais plus d'un an, a occasionné aussi de très grandes destructions dans la bande de Gaza, avec un bilan humain très lourd par ailleurs. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu appeler ce livre « L'année zéro », quelque part, du conflit israélo-palestinien, parce que ça fait référence, au film de Rossellini, Allemagne année zéro, parce qu'on voit bien à quel point, tant dans le sud d'Israël que dans la bande de Gaza, on a affaire à un champ de ruines sur le plan, on va dire, matériel. Et puis symboliquement aussi, ce que j'ai voulu dire par là, exprimer par là, c'est vraiment la espèce de gigantesque recul en arrière auquel on assiste depuis plus d'un an. Les cartes sont rebattues. Et de la même manière qu'on dit après un très très grave accident, on recommence sa vie à zéro, c'est peut-être ce qui pourrait se passer pour les Israéliens comme pour les Palestiniens. En tout cas, c'est ce que j'espère, c'est-à-dire la possibilité, après la guerre, d'une reconstruction, d'abord matérielle, mais aussi morale, intellectuelle et peut-être politique.
Effectivement, sur ce champ de ruines, il y a tout à reconstruire. Et surtout, d'abord, la confiance entre les deux parties qui a complètement disparu, même dans, les franges qui sont engagées pour la paix depuis des années. Et malgré tout, vous avez trouvé des interlocuteurs pour en parler. Alors, du côté israélien, les 4 personnalités que vous avez interviewées sont connues pour partie par nos auditeurs, Eli Barnavi, l'ancien ambassadeur d'Israël. Ron Ben Ishai n'est pas connu en France, est un journaliste, un vétéran de la presse israélienne qui a couvert toutes les guerres depuis la guerre des Six Jours, qui va traiter du conflit sur le plan militaire. Le général Amos Yadlin, qui est quelqu'un très engagé pour analyser la stratégie de l'État d'Israël sur le plan aussi politique et militaire. Et Eva Ilouz, intellectuelle, connue aussi en France parce qu'elle publie beaucoup en France, et qui va parler de l'impact du conflit sur la gauche mondiale, européenne et française notamment. Du côté palestinien, les intervieweurs sont beaucoup moins connus. Justement, moi, c'est ça dont je voudrais parler avec vous. Qu'est-ce qui vous a surpris ou étonné le plus dans vos rencontres avec ces interlocuteurs palestiniens ?
Alors, d'abord, un mot, si vous me permettez, sur le projet éditorial du livre. En fait, moi, ce qui m'a particulièrement, peiné après l'attaque du 7 octobre, très vite, c'est la polarisation à outrance du débat public sur le conflit israélo-palestinien. On a assisté à une forme de radicalisation idéologique avec 2 camps qui se sont constitués et qui chacun évoluait dans une espèce de bulle informationnelle très étanche. Et donc le projet pour moi du livre, ça a été justement d'essayer de valoriser une forme de raison discursive, c'est-à-dire d'éthique, de la discussion, de la conversation, du débat, parce que évidemment la conversation, ça ne se limite pas à l'exposition des points de vue, mais c'est aussi parfois la controverse. Et donc, en fait, ce qui m'a guidé dans le choix de mes interlocuteurs, tant du côté israélien que du côté palestinien, c'est d'abord et avant tout la volonté de mettre en avant des personnalités qui ont le courage de la nuance, le sens de la nuance, qui ont une expertise parce qu'elle est basée sur une expérience de terrain, et qui sont aussi capables de décrypter et d'analyser la situation dans les champs d'investigation qui leur sont propres. Alors s'agissant des Palestiniens, alors certains sont connus, d'autres moins, mais en réalité, les voix palestiniennes, disons, pragmatiques, qui sont en faveur d'une solution à deux États, de la reconnaissance de l'État d'Israël, qui sont critiques du Hamas tout en étant critiques de l'occupation, enfin, l'enquistement de l'occupation israélienne de la Cisjordanie et de la politique du gouvernement Netanyahou et de ses alliés d'extrême droite, en réalité, ils sont plus nombreux qu'on ne le croit. Simplement, on n'a pas forcément l'habitude de leur tendre le micro. Et moi, ce que j'essaie de mettre en avant précisément, c'est justement ce genre de personnalités intellectuelles, experts, activistes, qui sont dans ce positionnement que je trouve justement utile, équilibré et courageux dans le contexte actuel. Et pour répondre très concrètement à votre question, ce qui m'a frappé, si vous voulez, dans les entretiens que j'ai conduits avec eux, c'est leur volonté, malgré la guerre, malgré l'immensité des destructions, du deuil, qui, comme une chape de plomb, s'est abattue sur un grand nombre de familles palestiniennes, leur volonté, en fait, d'ouvrir un champ, celui d'un débat rationnel, apaisé, avec la partie israélienne, le simple fait qu'ils aient accepté faire partie de ce collectif dans le contexte actuel, de mon point de vue, déjà en soi, c'est un acte politique fort. Je donne un exemple concret sur leur position sur les manifestations pro-palestiniennes en Europe et aux États-Unis, bien qu'étant encore une fois, très hostile à l'occupation israélienne, au gouvernement israélien actuel, ces personnalités, en dépit de la diversité de leur parcours, ont à peu près tous dit la même chose sur le caractère totalement contre-productif de ces manifestations, parce que certains des slogans qui sont repris par les manifestants, qu'on devrait d'ailleurs qualifier davantage d'anti-israélien que de pro-palestinien, parce qu'on peut être à la fois pro-palestinien et pro-israélien, si on est favorable à une solution des États. Donc ces slogans, comme par exemple « From the river to the sea », de leur point de vue, c'est à la fois puéril et très dangereux, parce que...
Qui veut dire « de la mer au Jourdain ».
C'est ça, c'est donc du Jourdain plutôt à la mer.
Du Jourdain plutôt à la mer, c'est-à-dire ils veulent une Palestine du Jourdain à la mer, c'est-à-dire qu'ils négocient...
C'est une grande Palestine qui donc...
Qui nie l'existence d'Israël.
C'est ça, qui inclut Israël dans ses frontières internationalement reconnues. Or, bien qu'étant nationalistes, patriotes palestiniens, eux estiment que cette vision-là, très radicale, qui dénie au peuple juif le droit à l'autodétermination, est complètement contre-productive, parce que ce qu'ils essayent, eux, de défendre, c'est précisément le droit symétrique des Palestiniens à l'autodétermination, et ils savent que ça passera par un accord de paix en bonne et due forme avec les Israéliens. Donc on n'a pas nécessairement l'habitude d'entendre ces voix, mais elles sont plus nombreuses qu'on le croit, et malheureusement, souvent, on tend le micro à ceux qui crient le plus fort.
Tout à fait. C'est le témoignage de Ahmed Fouad Al-Khatib que vous citez, là dont vous parlez, qui est un Palestinien originaire de Gaza, qui s'est installé aux États-Unis et qui raconte que c'est aux États-Unis qu'il a rencontré pour la première fois des Juifs et des Israéliens et que ça lui a permis de faire tout un chemin pour prendre des positions beaucoup plus modérées. C'est très intéressant aussi que cette rencontre humaine permet de casser les barrières et les préjugés.
Oui, alors justement, en fait, moi, ce que je constate, si vous voulez, c'est que au moment de la signature des accords d'Oslo, il y avait un espoir était né. Si vous vous souvenez, ces accords avaient été fondés sur le principe de la reconnaissance mutuelle.
Oui, ben.
Or, on constate qu'en réalité, ce processus de reconnaissance mutuelle n'a pas été jusqu'à son, disons, n'a pas été parachevé. Quand on voit le degré d'hostilité qui oppose les deux populations aujourd'hui, et surtout en réalité le rôle que jouent les spoilers, c'est-à-dire des groupes qui sont opposés à la solution des États et qui utilisent soit la violence, soit la voie électorale pour empêcher toute résolution politique et diplomatique des conflits, c'est précisément à cette configuration-là de jeu de vision, de jeu à somme nulle, que j'ai essayé d'échapper en donnant la parole aux Israéliens et aux Palestiniens. Vous venez de citer à l'instant Ahmed Fouad al-Khatib. Ahmed Fouad al-Khatib, qui en effet vit désormais aux États-Unis, il est expert dans un think tank américain très réputé, l'Atlantic Council, est venu à Paris ces dernières semaines. Il a rencontré un certain nombre de responsables politiques et des journalistes. Et en effet, il a surpris un grand nombre d'entre eux parce que, justement, il arrivait à tenir les deux bouts, c'est-à-dire à la fois la condamnation de l'attaque du Hamas, de son caractère terroriste, la nomination même du Hamas comme un ennemi de la cause de la paix, et puis dans le même temps la critique de Netanyahou, des dérives libérales de son gouvernement, et puis une inquiétude manifeste, évidemment, avec l'intronisation en janvier prochain de Trump, donc son retour à la Maison-Blanche. Et donc vous voyez en fait cette discussion, finalement, la possibilité de poser le débat de façon beaucoup plus rationnel, de façon beaucoup plus apaisée. C'est ça précisément que j'ai essayé de montrer. Et il faut se donner la peine, encore une fois, de lire, d'écouter ces activistes et experts palestiniens, parce que ils sont tout à fait au fait de la peur qui travaille en profondeur le peuple juif, et en particulier en Israël. Et en fait, leur projet, ce n'est pas la destruction de l'État d'Israël, c'est tout simplement la réalisation d'un droit à l'autodétermination de leur peuple, le peuple palestinien, aux côtés d'Israël.
Tout à fait, c'est ce qui ressort de ces quelques témoignages, également des activistes palestiniennes, dont lutte une palestinienne israélienne, très active dans le mouvement israélo-israélien qui s'appelle Standing Together, c'est-à-dire qu'on se tient ensemble et qui milite également pour une solution politique du conflit. Très bien, bah, écoutez, David, c'est très intéressant. Ce livre, on peut se le procurer à la Fondation uniquement, c'est bien cela ?
Non, on peut se le procurer dans toutes les bonnes librairies, il peut se commander sur le site de la FNAC. Mais voilà, donc c'est une coédition Fondation Jean Jaurès et Le Bord de l'eau. Mais il est très facile de le trouver dans les bonnes librairies de Paris et de Navarre.
Très bien. Alors, je vous rappelle le titre. Israël-Palestine, année zéro, le 7 octobre 2023. Une onde de choc mondial. David Kalfa, préface de Eli Barnavi. Merci encore et bonne suite pour vos projets.
Merci à vous.
À bientôt. Au revoir.
Au revoir.